Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, la gloire trouve la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans estiger. M'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse trouve la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse trouve la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse trouve la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir deux héritiers de M. Bourdieu, Sophie
et Martin.
Alors, Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Sophie Bérou?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis enseignante-chercheure en sciences politiques à l'Université Lyon 2. Et je travaille depuis pas mal d'années sur les transformations du syndicalisme, dans les pratiques, dans la conflictualité, sur les enjeux d'organisation aussi des travailleurs et travailleuses précaires, pour donner quelques éléments.
Alors, le livre pour lequel je vous reçois tous les deux, c'est ton deuxième ouvrage. Tu as écrit un autre ouvrage avec deux autres personnes.
Oui, moi j'ai contribué à plusieurs ouvrages et notamment on avait aussi publié effectivement avec d'autres collègues, dont Paul Bouffartigue, un ouvrage sur Enquête des classes populaires. Et dans cet ouvrage, je revenais aussi sur la question de l'engagement et de l'organisation des travailleurs, travailleuses des classes populaires au sein du mouvement syndical.
D'accord. Martin, présente-toi s'il te plaît.
Eh ben, bonjour, merci aussi pour l'invitation. Donc moi c'est Martin Thibault, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Limoges. Et moi, je travaille principalement sur le monde du travail de manière large et plutôt sur les classes populaires. Voilà, j'ai travaillé notamment dans ma thèse sur les ouvriers du secteur public. Et puis, donc après, on a travaillé avec Sophie maintenant depuis un bout de temps, puisque cette enquête sur le syndicalisme et sur Solidaire a commencé en 2008. Donc, ça fait un petit bout de temps. Et j'ai récemment publié un roman à partir de mes travaux sociologiques, voilà, qui est une autre manière sans doute d'écrire aussi les sciences sociales, qui s'appelle « Les têtes hautes » et qui est sorti l'an dernier.
Voilà. Alors ça, on en parlera peut-être à la fin, si on a le temps, parce que j'ai commencé à le dévorer, il est passionnant. Bien. Alors, En lutte, les possibles d'un syndicalisme de contestation aux éditions Raison d'agir, sorti en 2022. Pourquoi un titre comme « Les possibles » Les possibles dans le titre. C'était pas un piège.
C'était non, c'est parce qu'on s'intéresse à une organisation solidaire. Mmh. Alors, une organisation qui recouvre plusieurs organisations, notamment les syndicats Sud, qui, lorsqu'ils se sont constitués, notamment pour les premiers, pour Sud PTT, Sud Santé Sociaux, bien, en se constituant, ils voulaient interroger un peu les possibles de l'action syndicale. Comment on pouvait repenser l'action syndicale, repenser l'espace, le périmètre pour cette action, par rapport à ce qui existait déjà dans le champ syndical, par rapport aux pratiques des grandes confédérations, pour le dire ainsi, comme la CGT ou la CFDT. On va y venir, ces militantes et ces militants, ils venaient de la CFDT. Ils avaient subi un petit peu le fait de se voir peu à peu marginalisés, pointés du doigt, traités de dissidents, dissidents dans la CFDT. Et donc, quand ils construisent les syndicats Sud, ils veulent essayer de repenser ce que pourrait être l'espace du mouvement syndical. Et comment on pourrait penser les luttes. C'est pour ça, je pense, qu'on a choisi ce titre sur...
Oui, c'est ça, exactement. Et puis il y avait aussi cette idée des possibles inscrits aujourd'hui, c'est-à-dire de présenter aussi un état d'une recherche sur une quinzaine d'années sur le type de syndicalisme et sur les défis et questions qui se posent aujourd'hui à une organisation de lutte dans le champ syndical. Donc c'était aussi quelles sont les possibles réponses, les manières de se saisir, des questionnements actuels, des difficultés du mouvement syndical pour pouvoir les interroger autrement. Et d'ailleurs, on en parlera après, mais le livre commence sur les Gilets jaunes, qui est aussi une vraie invitation à interroger le paysage syndical.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous commencez par le mot « divorce ». Les syndicats sont en divorce avec les Gilets jaunes. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on commence par, comme fil conducteur des deux premiers chapitres, parce que c'est quatre chapitres de votre livre, une introduction, une postface, c'est le portrait de Annick Coupé. Qui est-elle ?
Donc, on a effectivement suivi un peu le fil conducteur pour présenter la génération des fondateurs de Solidaire. Et donc, Annick Coupé, qui a été porte-parole de l'organisation pendant une petite quinzaine d'années, a eu un certain nombre d'éléments de sa trajectoire qui renvoient à ce qu'était cette génération de fondateurs, des gens qui ont participé à fonder les premiers Sud, qui ont été des militants qui ont connu 68 et l'après 68, qui ont connu cette effervescence de la CFDT qui paraît extrêmement loin aujourd'hui quand on dit ça à des militants plus jeunes, de ce qu'était la CFDT dans les années 70 comme type de syndicalisme très avant-gardiste, très lié à un certain nombre de luttes hors les murs de l'entreprise, au féminisme, contre le productivisme, de réflexion contre le nucléaire, de présence sur le plateau du Larzac, de choses comme ça. Et de voir aussi comment ces militants qui étaient très ajustés comme Annick Coupé à l'intérieur de leur organisation vont se retrouver être de plus en plus marginalisés à partir du moment où la CFDT va resserrer son action sur la sphère de l'entreprise et reprendre en main une partie de l'appareil qui avait été en partie débordée par ces luttes hors les murs. Et ceux qui vont créer du coup les premiers Sud sont surtout des gens qui ont déjà été des minoritaires, mis en minorité à l'intérieur de leur organisation,
des
qu'on va appeler
noirs,
les moutons noirs exactement, voilà. De la CFDT. Annick Coupé qui s'opposera directement à Edmond Maire lors d'un congrès quand il annonce que la grève est un moyen de lutte archaïque, on est en 84-85, et qui vont essayer de rappeler que le syndicalisme, c'est une lutte sur ses deux jambes, issue de la charte d'Amiens, à la fois, comme le dit la charte d'Amiens, une lutte contre les empiétements du capital au quotidien, mais également un projet de transformation sociale en soi, et que cette transformation de la CFDT, pour des militants comme Annick, mais comme pour d'autres militants de cette génération qui vont créer les premiers Sud, il était évident que le syndicalisme devait marcher sur ses deux jambes.
Voilà. Alors, Martin, je te laisse lire le passage où Annie Coupé rappelle ce que c'était que la CFDT. Il est là, page 25. Voilà, c'est ce petit passage, là, en filigrane, où elle rappelle.
Donc, elle revient sur sa trajectoire et elle explique d'où elle vient. Et donc, elle raconte que elle a arrêté ses études, elle travaille un moment comme caissière dans un hypermarché, elle va rejoindre une section CFDT, et donc, c'est à ce moment-là qu'elle va s'impliquer. Et donc, le passage qu'on cite était issu de son pot de départ quand elle a quitté la direction de Solidaire en 2014. Elle dit « Les militants syndicaux qui m'ont accueilli à ce moment-là, moi, la militante athée et maoïste à l'époque, je sais, cela fait un peu exotique et pas très parlant pour les plus jeunes, étaient des prêtres ouvriers. J'ai quitté quelques années après mes camarades maoïstes et je suis resté depuis syndicaliste sans autre attache partisane. Pour autant, si je ne renie pas ce passé politique, car il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, moi, qui venais d'une famille pas très progressiste, je ne regrette pas d'en être sorti et cela m'a vacciné contre un certain sectarisme. »
Tout est dit. Elle a présidé aux destinées d'attaque jusqu'à sa retraite, au-delà de sa retraite même, puisqu'elle a démissionné ensuite pour laisser la place à d'autres. C'est très sport de sa part, j'ai trouvé.
Ça nous a paru aussi intéressant qu'elle choisisse de continuer à militer dans une organisation comme ATTAC après, parce que ça pose aussi la question des sorties des responsabilités syndicales. Qu'est-ce qu'on fait après avoir été une militante très investie dans Sud PTT, à la CFDT d'abord, dans l'opposition à gauche CFDT, après dans Sud PTT et après au sein de Solidaire, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et ça, c'est aussi parlant de ce qui se joue dans le champ syndical. Il y a des reconversions qui se font de dirigeants syndicaux vers d'autres univers, à commencer par l'univers des DRH, vers de temps en temps aussi le champ politique. Et là, elle va choisir de continuer à être dans une organisation qui essaye de faire la jonction entre différents types de luttes, d'armer intellectuellement les luttes en termes de réflexion. Donc ça parle bien aussi de la façon dont elle pensait le syndicalisme aussi.
Voilà. En fait, M. Bourdieu l'appelait une responsable irresponsable, avec affection.
Exactement. Ouais. Elle le rappelait d'ailleurs dans son pot de départ, que c'était vraiment sans doute un des meilleurs compliments qu'on lui ait fait.
Oui.
Mais c'est ce que disait Sophie, c'est que ça permet aussi de donner un aperçu de ce qu'est le champ syndical aujourd'hui, quand on se retrouve à la tête d'une organisation comme Solidaire, et que derrière, on va, après sa retraite, continuer à militer à ATTAC. Bon, effectivement, c'est pas la même chose que Nicole Nota, prendre la tête d'une agence de notation des entreprises et présider l'association Le Siècle, juste après, à l'époque, Denis Kessler, qui était un patron d'assurance et numéro 2 du MEDEF, ou de Bernard Thibault, qui, après sa carrière confédérale, a porté la flamme olympique et défendu la charte sociale des Jeux Olympiques, avec quand même beaucoup d'entorses à la réglementation sur le droit du travail et beaucoup de travail gratuit, qui a bien montré Maud Simonet sur les Jeux Olympiques. Qui pose aussi des questions sur les types de reconversion. Et bon, pour le coup, la trajectoire d'Annick est assez exemplaire de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a une filiation très évidente en fait avec ATTAC qui va être prolongée après la carrière syndicale.
Tu as oublié de parler de M. Chérec, qui a eu aussi un parcours. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, éloquent. Alors, dans les conflits, quand on parle de la CFDT, il y a une phrase cruelle, mais juste, quelque part, qui dit « Quand le patronat rétablira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes.
» Oui, mais dans l'ouvrage, on essaye de revenir sur la trajectoire assez singulière qui a été celle de la CFDT, que Martin rappelait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est une organisation qui se crée en 1964, qui est issue de la CFTC. C'est tout ce mouvement de déconfessionnalisation, de prise de distance par rapport à l'Église catholique. Et quand elle se crée, cette organisation, elle va être très en phase avec les luttes de l'époque, à commencer par mai-juin 68, et surtout dans la période des années 68, les luttes féministes, le soutien aux travailleurs immigrés, OS dans l'industrie automobile, mais aussi par rapport au foyer, à la lutte, à la grève des loyers dans les foyers Sonacotra, enfin, toute une série de luttes dans laquelle la CFDT est inscrite. Et ensuite, cette organisation, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont revenus sur son histoire, qui ont montré comment elle va avoir une très forte inflexion de sa trajectoire. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70, l'organisation elle adopte un rapport qui est connu comme le rapport Moreau, qui est le rapport qui a été qualifié, en fait, après le terme qui a été mis sur ce changement de stratégie, c'est celui d'un recentrage de l'organisation. Alors, recentrage sur les relations professionnelles dans l'entreprise. Et donc, c'est une organisation qui va complètement changer de ligne stratégique pour, au contraire, dire que l'action syndicale doit totalement être orientée vers...
Du donnant-donnant.
Oui, vers la négociation. Vers la négociation à l'échelle. Alors, c'est justifié par l'idée d'être plus près des salariés, donc au niveau de l'entreprise. Si ce n'est que c'est dans un contexte où le contenu même de la négociation se transforme complètement. Mmh. Autant dans les années post-68, la CGT, la CFDT, elles se mobilisaient pour, par exemple, obtenir des augmentations de salaire. Et puis, c'était faux qu'elle ait signé. Si c'était 200 francs au lieu de 500 francs, il y avait quand même augmentation de salaire. Dans les années 80, c'est des mobilisations pour éviter des luttes et des négociations, pour éviter les fermetures d'entreprises, la fermeture d'une ligne de production. Et donc, la CFDT, elle va miser sur la négociation au moment où la négociation, elle devient donnant-donnant, voire donnant-perdant. D'où... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire se recentrer sur les relations professionnelles, sur faire de la pratique de la négociation l'alpha et l'oméga de l'action syndicale, quand ces négociations, c'est pour accompagner au mieux les politiques néolibérales, mais pas du tout pour les enrayer ou les combattre et les empêcher, en fait. Et d'où cette expression qu'on entend des fois dans des manifestations, cette idée, la CFDT va finir par négocier le poids des chaînes, quoi, en fait.
Alors, il y a un autre livre dont je vais parler très vite, c'est « À l'assaut du ciel rouge ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. « Une histoire orale de la CFDT, l'ONWI, 78-79, aux presses du Faubourg ». Donc, ça revient sur les 8 mois où justement des militants de la CFDT ont essayé d'empêcher les fermetures. Et ça montre bien aussi une lutte à l'intérieur de la CFDT.
Bien sûr, il y a une très forte diversité interne dans la CFDT. Et des militants, des militantes qui ont été très investis dans toute une série de luttes au cours des années 70, jusqu'à la lutte, bien sûr, l'ONWI. Et ces militants, pour une partie, ils vont contribuer à créer les syndicats sud. Pour d'autres, ils vont continuer à lutter dans la CFDT en pensant qu'ils peuvent encore changer le cours des choses, ce qui ne va pas être le cas, et rejoindre après les syndicats sud ou d'autres syndicats, la FSU, la CGT.
Et puis peut-être qu'on peut rajouter ça, ce qui est marquant aussi dans les années 80, dans ce recentrage, c'est qu'au niveau du discours de la CFDT, on continue à valoriser l'idée de l'autogestion avec un sens très différent. C'est-à-dire que les personnes qui vont valoriser l'autogestion dans le discours de l'organisation sont des gens qui vont avoir une prise en main très autoritaire par ailleurs, qui vont exclure des militants, qui vont pointer du doigt les moutons noirs, ceux qui ne sont pas les plus ajustés aux transformations de l'organisation. Et donc, c'est un moment un peu particulier d'aggiornamento, comme ça, idéologique très fort de la CFDT, qui accompagne également le tournant de la rigueur du début des années 80, avec l'arrivée du Parti Socialiste, notamment la gauche au pouvoir de manière plus générale. Et finalement, ils vont se retrouver à avoir un discours où on valorise encore l'autonomie, l'autogestion, dans un certain type de discours, tout en ayant une reprise en main très autoritaire et qui va se traduire aussi par des départs et par de très nombreuses exclusions.
Voilà. Alors, 1995, ça c'est le tournant. Et ça, vous le montrez très bien dans le livre, tous les deux. 1995 et la création des Suds. Si vous pouvez revenir là-dessus pour nos auditeurs, 1995, quel est l'impact? C'est vraiment le... Bon, on parle... Ça va aussi bien de l'effervescence côté intellectuel. On se rappelle de M. Bourdieu venant faire son discours devant les cheminots aux gares de Lyon. Tout ça, c'est 1995, 3 semaines où tout a failli basculer.
Et oui, tout à fait. C'est très bien de revenir sur le mouvement social de novembre-décembre 1995. Ça fait 30 ans et finalement, il y a eu un petit peu de débat en décembre dernier, mais pas tant que ça sur ce mouvement. Les premiers Suds, ils sont créés à la fin des années 80, 88-89. Mais les premières années, c'est plutôt des années pour se faire reconnaître, des batailles pour la représentativité, notamment se reconnaître à la Poste et à France Télécom, puisqu'il y a eu la séparation, la cassure en deux des PTT à l'époque, se faire reconnaître dans les hôpitaux. Et en fait, 95, ce mouvement de contestation à la fois du plan Juppé, de réforme de la sécurité sociale, hein, qui contenait plein de choses, dont l'étatisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire retirer au syndicat le fait de pouvoir gérer de façon paritaire, hein, les caisses de sécurité sociale, en tout cas le budget de la sécurité sociale. Et puis aussi, il y avait plein d'autres choses qui étaient dans le plan Juppé. Il y avait aussi un contrat de plan État SNCF. Hein. Il y a plusieurs fronts de lutte en 95. Et c'est ce mouvement, c'est un mouvement, c'est le plus grand mouvement social depuis mai-juin 68, avec une paralysie complète des transports, notamment liée à l'action des cheminots. Et ça va être un moment, c'est pas simplement une grève défensive, hein. Comme on a pu les voir à la fin des années 80, c'est aussi à un moment de très forte contestation de la mise en place des politiques néolibérales en France. Hein. Et c'est un moment qui ouvre de nouveau un espace de discussion sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives à ces politiques néolibérales, alors même qu'en raison de l'effondrement du Bloc de l'Est en 89, finalement, il y a eu tout ce discours politique porté par une large partie
de Thatcher et Reagan.
Ouais, il n'y a pas d'alternative. Pour la France, 95, c'est le moment où un certain nombre, grâce à l'ampleur des grèves et des manifestations, il y a un espace pour dire, il peut y avoir des alternatives, on n'est pas obligé de subir ces politiques néolibérales. Et donc, effectivement, il y a une lutte à la fois, une lutte des travailleurs, travailleuses, hein, en termes de mobilisation, mais il y a aussi une lutte dans le champ intellectuel pour essayer de qualifier ce qui est en train de se passer. Avec une offensive des milieux proches du PS, de la Fondation Saint-Simon, autour d'Alain Touraine et de Nicole Nota, qui était la secrétaire générale de la CFDT à l'époque, pour dire non, c'est pas un mouvement social, c'est une agrégation de corporatisme. Mm-hmm. Hein, regardez, ils n'ont rien compris à ce qui est en train de se jouer, ils défendent leurs intérêts particuliers, c'est un mouvement dans le secteur public. Et face à ça, des prises de parole pour dire c'est un mouvement social, et c'est un mouvement social qui pose des enjeux de société de façon très profonde. Et ce que va dire notamment Pierre Bourdieu sur la pétition Bourdieu, il n'y avait pas que Pierre Bourdieu qui a signé cette pétition, mais elle a été connue comme ça, et ça, ça a amené ensuite à sa prise de parole, à sa traversière, mais aussi à la mise en place des états généraux du mouvement social à la suite de 95.
Martin.
Et puis c'est vrai que c'est aussi le retour, 95, tu le disais bien, c'est le retour à la fois des classes populaires dans le débat public, et le retour d'une rhétorique du conflit dans la manière d'appréhender les mouvements sociaux. Il ne faut pas oublier qu'en 1995, on sort d'une grosse dizaine d'années avec une succession de plans sociaux très forts, une disparition des classes populaires du débat politique, une perte d'influence du Parti communiste dans ces années-là, une disparition, une éviction progressive des classes populaires, notamment du monde ouvrier de la scène politique, où d'un coup ça rappelle qu'il y a des salariés populaires dans notre pays, qu'on vit dans une société de classes populaires et qu'ils ont une capacité de conflictualité importante. Et pourquoi on peut dire que c'est un retour du conflit aussi? Parce qu'on sort aussi d'une décennie où c'est l'accomplissement de la rhétorique du dialogue social qui est développée à partir des années 80, notamment le premier à parler de dialogue social et de partenaires sociaux, c'est Claude Cheysson, qui est un ministre du commerce extérieur socialiste en 1984, un rocardien, où avec cette idée que le dialogue social permettrait de régler la conflictualité, que les syndicats seraient des partenaires sociaux, qu'on pourrait euphémiser la conflictualité parce que salariés et patrons partageraient un certain nombre d'intérêts communs. Bon, 95, c'est un gros caillou dans la botte du dialogue social, de considérer que c'est pas en s'asseyant autour d'une table avec des intérêts divergents qu'on va pouvoir régler ça uniquement par le dialogue, parce qu'on aurait mal compris le corollaire du dialogue social, c'est toujours la question de la pédagogie. Les gens n'ont pas compris, donc il faut leur expliquer. Là, au contraire, les gens l'ont très, très bien compris. Le conflit a été remis sur le devant de la scène avec une opposition très franche, qui était quelque chose qui arrivait comme une bouffée d'oxygène pour beaucoup de militants dans ce contexte-là, après des années de politique d'austérité et des années de dialogue social, justement, qui produisait des effets pas uniquement rhétoriques, mais de transformation de la société. Sur cette idée du TINA, le dialogue social à la française, c'est ça, quoi.
Alors, les Suds, on va examiner les Suds 95. Vous avez bien montré ça, surtout dans le deuxième chapitre. Alors, je vous ai... Sophie,
oui, Martin. Effectivement. C'est-à-dire qu'en raison de l'ampleur du mouvement, de ce qui se joue aussi comme ouverture des possibles, il y a un certain nombre de militants, militantes qui sont encore dans la CFDT qui vont se dire, là, c'est plus possible, on ne peut pas rester dans cette organisation. Il faut savoir donc que la CFDT a soutenu la direction de la CFDT, on ne l'a pas dit, mais a soutenu le plan Juppé.
Oui, Nicole Nota a signé.
C'est la première fois qu'une confédération dite ouvrière approuve une réforme venant d'un gouvernement de droite. Hein. Mm. Ça a quand même des secousses. Et puis, ce n'est pas simplement sur le plan symbolique, c'est le contenu de la réforme, évidemment, ce que ce plan Juppé contenait. Donc, ça fait des secousses internes extrêmement fortes dans la CFDT. Et un certain nombre de militants et militantes se disent « Bon, ben, on ne peut plus rester dans cette organisation, on va sortir et créer des nouveaux syndicats sud, puisqu'on a des camarades qui ont déjà créé des syndicats sud. » Et notamment, par exemple, il y a Sud Cheminot, puis qui devient Sud Rail, qui se crée dès janvier 96. Hein, mm-hmm. Et puis plein d'autres Sud qui se constituent, Sud Éducation. Voilà, ça va être une impulsion pour les syndicats Sud. Les deux premiers vont voir apparaître, des organisations sœurs. Mm-hmm. Et ça va aussi pousser à les rassembler dans une organisation, essayer de penser une façon de se coordonner, de se rassembler pour pas simplement militer dans chaque entreprise, mais avoir une dimension interprofessionnelle. Mm-hmm. D'où la constitution de l'Union syndicale solidaire. En fait.
Voilà.
Et il y a une dimension assez relationnelle aussi du paysage syndical, puisque pour beaucoup, à la fois on peut se retrouver avec la CGT dans un certain nombre de luttes, notamment en décembre 95 par exemple, mais les modes de fonctionnement internes de la CGT ne sont pas forcément très satisfaisant. Et pour beaucoup qui ont déjà été confrontés au fait d'être minoritaires dans leur organisation, la CFDT,
il y a l'idée pyramidale.
On peut recréer un autre modèle syndical qui ne soit pas un modèle justement vertical, mais plus horizontal, avec l'idée aussi, dans un premier temps, et c'est important de le dire, que la création de ces organisations se veut en partie provisoire. Quoi. Il va y avoir des recompositions plus larges. Est-ce qu'on pense à l'époque du paysage syndical ? En attendant ces recompositions, il faut déjà créer des organisations dans lesquelles on peut militer à sa main, en ayant une possibilité d'avoir des mouvements qui ressemblent à ce qu'on a envie de faire, sans être soumis à une direction confédérale qui pourrait imposer des choix plutôt qu'un autre. Donc c'est pour ça que certains finalement n'hésitent pas tant que ça à rejoindre la CGT, et que pour beaucoup, la création d'une nouvelle organisation apparaît relativement évident en quittant la CFDT.
Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour tout ce qui est représentativité, il y a eu des syndicats qui se sont alliés au patron contre les syndicats sud, devant les tribunaux. C'est hallucinant.
Le fait de créer des nouvelles organisations va être mal vu par d'autres organisations. Effectivement, les batailles ont été très très dures dans des secteurs comme La Poste, comme France Télécom, comme... notamment la SNCF, hein, avec non seulement l'employeur, le patron qui refuse de voir apparaître ces nouvelles organisations, mais parfois, effectivement, hein, d'autres organisations, à commencer par la CGT, qui est allée devant les tribunaux pour contester, pour dire ces syndicats, ils ne sont pas représentatifs, ils n'ont pas le droit de se présenter aux élections, ils n'ont pas le droit de désigner des délégués syndicaux. C'est parce que c'est ça qui se joue derrière aussi, la question de la représentativité, en fait. Et cette hostilité entre les Suds, on va la retrouver très longtemps au sein de la CGT. Et parfois encore, on entend des discours très caricaturaux sur ce que sont les syndicats sud dans des organisations de la CGT, en fait. Hein.
Alors, Sudras, c'est 130 procès.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est visible aussi sur la possibilité pour l'Union syndicale solidaire aussi d'être ne serait-ce que dans les carrés de tête des manifestations pendant très longtemps. C'est-à-dire que cette hostilité qu'on retrouve dans des sections d'entreprise, on va la retrouver aussi à la tête des directions confédérales, où le fait d'apparaître sur la photo dans un premier temps, d'être dans le carré de tête aux côtés des autres dirigeants des organisations syndicales, va être un combat pendant des années pour pouvoir être présent, être là et accepter que Solidaire puisse être reconnu comme une organisation comme les autres, en tout cas puisse apparaître comme un interlocuteur légitime, y compris pour les autres organisations syndicales.
Alors, vous avez bien dit le but des fondateurs de Sud. Je résume, c'est transformer les pratiques syndicales, ça on l'avait compris, pour entraîner davantage de salariés et élargir les résistances au capitalisme. Voilà, j'ai bien résumé ?
Oui, quand ces militants et ces militants créent des syndicats sud, c'est pas simplement pour créer une nouvelle organisation. Et d'ailleurs, ça les dérange. Ils voudraient pas créer une nouvelle organisation. Et c'est pour ça qu'ils se pensent comme transitoires. Ce qu'ils veulent, c'est ils se disent, aujourd'hui, on a un taux de syndicalisation. C'était déjà, je dis aujourd'hui, à l'époque, et c'est toujours le cas, autour de 11% de la population active. Il y a des déserts syndicaux. Donc, il faut réussir à penser à un outil qui permette que davantage de travailleurs et travailleuses aillent vers les syndicats, s'organisent, luttent. Donc c'est plutôt comme ça qu'ils pensent. Hein. Ils veulent renouveler les pratiques syndicales pour permettre au syndicalisme de se redéployer. C'est ça l'enjeu, en fait. Hein.
Mm-hmm. Martin ? Non.
Non, c'est bon.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que à ce niveau de l'émission, on va faire une pause musicale et on va revenir sur les troisième et quatrième chapitres de votre livre. Merci.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on?
Chers auditeurs de La Rage de Dents, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Sophie Bérou et Martin Thibault pour leur livre En lutte, les possibles d'un syndicalisme de contestation aux éditions Raison d'agir. Alors, Sophie, donc renouvellement des générations, Sud est en pointe.
Oui, c'est. Ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point. Ce nouveau syndicat, surtout ce nouveau syndicalisme, hein, qui essaye de mettre en œuvre des pratiques plus horizontales, hein, qui essaye de lutter contre des formes de professionnalisation, d'institutionnalisation du syndicalisme, de réfléchir aux formes de démocratie interne, comment on prend des décisions, comment on les met en œuvre, quelle est la place donc des permanents ou des semi-permanents, est-ce qu'on se dote ou pas de semi-permanents, ben, à quel point ces syndicats suites vont réussir à attirer des générations plus jeunes en leur sein, réussir à faire que le fait de s'engager dans un syndicat apparaisse comme le prolongement, par exemple, de luttes menées quand on a été étudiant à l'université. Donc voilà, c'est ce qui nous intéressait un petit peu, cette question de l'ouverture à des jeunes générations, sachant que on a aussi, avec Martin, on a fait passer des questionnaires aux différents congrès nationaux de Solidaires, et ce depuis 2008. Et Solidaires rencontre des difficultés, comme d'autres syndicats aujourd'hui en France, à avoir des jeunes parmi ses adhérentes et ses adhérents. Dans le syndicalisme, on est jeune assez tard, hein, parce que justement, des jeunes d'entre 25 et 30 ans, on en trouve peu dans les organisations syndicales. C'est lié à la question de la précarité. Hein. On sait qu'aujourd'hui, pour entrer dans l'emploi, il y a un sas de précarité plus ou moins long. Et donc, cette question de l'engagement des jeunes est vraiment une question qui touche l'ensemble des syndicats. Les syndicats sud, qui, malgré leur image, ont quand même des difficultés. Donc on a voulu interroger ça de plus près, et notamment Martin a suivi les trajectoires d'engagement de jeunes militants, et peut-être que je te cède la parole là-dessus, si tu veux.
Ouais, et nous, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est d'inverser un peu la question. Il y a beaucoup de travaux sociologiques qui s'intéressent au fait que les jeunes ne viennent pas. Donc nous, on a pris un peu le problème dans l'autre sens, et comme on a fait, on n'a peut-être pas suffisamment dit, mais on a fait une enquête vraiment dans la durée, donc on a pu suivre, pas une photo à un moment donné, mais les suivre sur 10, 12 ans, 14 ans, 15 ans pour certains, de voir un peu, en suivant des parcours de jeunes qui venaient d'entrer dans l'organisation, comment se développait leur engagement dans le temps. Bon, la première information qui était importante, c'était de se dire, ceux qui rentrent ne sont finalement pas si différents de ceux qui ne rentrent pas. Voilà. On n'a pas de prédisposition militante très forte, on a rarement des militants extrêmement chevronnés qui rentrent dans les syndicats sud parmi ceux sur lesquels on a enquêté, donc qui va un peu contre l'idée que ce serait uniquement des militants politiques qui viendraient parachever leur engagement politique. Il y en a certains qui ont un engagement politique par ailleurs ou qui ont été militants étudiants, par exemple, à l'université. Mais la plupart vont d'abord rentrer sur des motifs très classique sur des entrées très professionnelles, liées à la dureté des conditions de travail, à des oppositions avec les supérieurs directs. Et ce qu'on va valoriser dans ce cas-là, c'est deux choses. C'est l'efficacité dans le traitement du dossier et la présence sur le terrain. Et également, on pourrait rajouter une forme d'intransigeance dans la négociation, enfin, en tout cas, dans la discussion, quand on a un problème avec son supérieur direct. Nous, on a pas mal d'enquêtés qui racontaient dans une gare, dans un dépôt, dans un atelier, qui racontaient la fois où ils avaient des problèmes avec leur supérieur direct, où ils ont été voir le délégué, et le délégué a, voilà, été voir de manière assez frontale le responsable, le chef, pour le faire taire, lui expliquer qu'il pouvait pas faire les choses de cette manière-là. Ce moment, on se sent pas tout seul et on va passer un premier cap. Et ce dont on se rend compte dans le temps, c'est qu'on va régulièrement passer des caps. La première étape, c'est de dire, moi, je ne suis pas du tout... les syndicats, j'y connais rien. Beaucoup nous disaient ça. Mais en même temps, telle personne a réglé mon problème. J'ai eu un problème avec ma direction. J'ai eu un souci sur mon contrat de travail. Il a été réglé. Je vais prendre ma carte pour les remercier. Ça me paraît logique. Or, c'est une petite organisation. Ce sont des petites organisations qui ont souvent besoin d'avoir des militants. Et donc, assez rapidement, ils vont passer des caps beaucoup plus importants que ce qu'ils imaginaient. Donc, on a vraiment l'impression de mettre le doigt dans un engrenage. Oui. Pour certains, on se retrouve à être du coup suppléant sur les listes quand il faut présenter des listes aux élections professionnelles, se retrouver finalement à être tuilé pour pouvoir prendre une responsabilité et siéger et occuper des mandats, se retrouver à prendre un mandat plus important la fois d'après, qui fait que pour certains, c'est parfois très compliqué sans prédisposition politique, parce qu'on a du mal à tenir son engagement, que la discrimination syndicale fait rage, qu'on subit des pressions extrêmement importantes et qu'on vit souvent d'autant plus durement qu'on n'est pas suffisamment armé politiquement pour les vivre, parce qu'on les prend très personnellement. On raconte ça notamment dans le chapitre 3 d'un militant qui va presque étouffer fait par moment de subir cette répression et qui va tout lâcher. Et puis, il y en a d'autres qui vont, au contraire, se politiser par la lutte, se politiser par les mandats, qui vont prendre leurs aises dans la section locale, se sentir à l'aise, avoir beaucoup plus d'autorité aussi dans les échanges avec la direction, et qui vont passer des caps et se politiser par le travail syndical. Du coup, c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce qu'on imagine toujours qu'il faudrait qu'il y ait une très forte génération politique pour renouveler le syndicalisme. Alors, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle de penser que non, parce que s'il fallait attendre que ça, la situation serait sans doute un peu compliquée à appréhender. Au contraire, on se rend compte que par les rapports de travail, dans un contexte de durcissement extrêmement fort des relations de travail, on a une forme de politisation, et pour certains qui rentraient à Sud uniquement parce que telle personne qu'ils connaissaient les avait aidés. Moi, je me rappelle de deux jeunes qui m'avaient dit, je leur demandais, mais quelle image vous aviez de Sud avant d'y rentrer? Ils montraient les deux plus vieux qui les avaient fait rentrer. Ils avaient deux mecs mal rasés à lunettes, voilà, qui étaient les deux de l'autre côté de la table, qui montrent bien qu'ils n'avaient aucune lecture très politique de ce qu'étaient les différents syndicats et aucune lecture très évidente de la différence entre la CFTC, FO, la CFDT ou la CGT. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le travail syndical au quotidien, l'exercice des mandats, les discussions en section, font que pour beaucoup, au bout d'un moment, on s'en rendait compte qu'on ne s'était pas trompé d'adresse, voilà, qu'on était quand même au bon endroit et que, je reviens sur ce que je disais au départ, le fait de valoriser une conflictualité très forte avec la direction était quelque chose dans un contexte de durcissement des rapports de travail qui était quand même assez nettement valorisé parmi les jeunes qu'on a rencontrés.
Ah mais parfait. Donc, quelque part, c'est un signal au management, éviter de rentrer en conflit, les gens prendront peut-être moins leurs cartes. Un peu d'humour. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'était mon humour. Il est particulier, je concède. Alors, je voudrais que, Martin, tu présentes un peu plus ça, tu as parlé des deux premiers, les deux autres qui étaient plus en lien avec les gilets jaunes.
Oui, alors, le dernier chapitre, il est constitué autour des relations entre syndicats et gilets jaunes.
Voilà.
C'est à la fois le début du livre et la fin, c'est-à-dire que nous, on est parti du mouvement des gilets jaunes pour montrer que c'était une sorte de miroir inversé qui renvoyait de manière très évidente aux difficultés du paysage syndical. On avait une surreprésentation chez les gilets jaunes, des petits indépendants,
des femmes,
des précaires, des femmes, des gens relativement âgés mais également des jeunes, une surreprésentation de zones rurales ou périurbaines qui sont souvent des déserts syndicaux, une surreprésentation des salariés des toutes petites entreprises dans lesquelles, voilà, pour les PME, c'est presque 80% qui n'ont aucune présence syndicale. Donc finalement, là où les gilets jaunes étaient forts sont des endroits où les syndicats étaient relativement peu visibles. C'est ce qui explique sans doute aussi pourquoi dans les toutes premières semaines, alors après l'Arc de Triomphe, la presse conservatrice a un peu changé son fusil d'épaule, mais pourquoi dans un premier temps, y compris du côté de la presse conservatrice, y compris sur CNews, des émissions comme ça, il y a une perception assez favorable au tout début du mouvement des Gilets jaunes, d'un mouvement qui était aussi perçu comme étant très nettement à côté, en tout cas présenté comme très nettement à côté du mouvement ouvrier traditionnel et à côté d'organisations présentées comme de gauche, donc les organisations syndicales et les mouvements politiques. Nous, ce qu'on essayait de montrer dans notre travail, c'est que ça renvoie aux difficultés du syndicalisme, mais qu'en même temps, on a rencontré beaucoup de militants syndicaux qui se sont impliqués dans les Gilets jaunes. Parfois sans leur étiquette syndicale, parce qu'elles étaient parfois difficilement perçues sur les piquets, en tout cas sur les ronds-points, le fait de venir d'une organisation syndicale n'était pas toujours forcément bien perçu, mais pour beaucoup, en tout cas de ceux qu'on a rencontrés qui ont été des militants syndicaux qui se sont pleinement impliqués dans les Gilets jaunes, il y avait un certain nombre de prédispositions à se sentir Gilets jaunes. À la fois le fait de considérer que le syndicalisme n'est qu'un outil, de ne pas être des militants d'organisation, ils n'étaient pas là pour donner la bonne parole de Solidaire ou de la CGT, d'avoir souvent eu un rapport un peu, on pourrait dire, distendu avec les organisations syndicales, d'avoir été par moments militant et par moments non syndiqué, en tout cas d'avoir lutté de plein de manières différentes. Et dernier élément, d'avoir aussi en tête que le syndicalisme pouvait refléter une sorte de forme d'entre-soi. Donc j'ai les deux qu'on a rencontrés notamment. Il y avait cette idée qu'on allait pouvoir rencontrer le vrai peuple, d'une certaine manière. En tout cas, qu'on rencontrait des gens qu'on croisait au quotidien, mais qu'on ne voyait pas dans nos organisations syndicales. Alors que ce sont des militants d'organisations syndicales plutôt populaires, qui ont un recrutement plutôt populaire, là, à la RATP par exemple, ou à la SNCF, pour les deux militants dont on a parlé. Et donc il y avait cette idée aussi que les Gilets jaunes étaient un mouvement qui allait dépasser ce genre de clivage et qui allait aussi permettre de renouveler les pratiques syndicales, en tout cas, notamment, le chapitre est ouvert par cette phrase d'une des militantes de la SNCF qui dit, en fait, nous, chez les Gilets jaunes, il y avait cet enjeu qu'il n'y avait rien à négocier. Voilà, oui. On avait un certain nombre de choses à défendre et on n'était pas là à vouloir manger des petits fours à l'Assemblée ou dans les instances, dans les discussions avec l'État, avec cette idée qu'on critique le fait que les syndicats puissent négocier en permanence avec l'idée de pouvoir proposer autre chose. Donc, on va voilà. Lire cet extrait.
Voilà.
Et donc, Leïla, 39 ans, militante Sudrail et Gilets jaunes, raconte du coup en septembre 2020, lors de l'entretien que l'on fait avec elle, et a dit « Mais quand il n'y a rien à négocier, pourquoi tu vas à cette table de négociation ?» Donc là, elle fait explicitement référence à la tendance à négocier des organisations syndicales. Et elle dit « Pour les Gilets jaunes, il n'y avait pas à négocier avec le gouvernement. On veut ça et on l'aura. » sans aller manger des petits fours à l'Élysée. Et je pense qu'il y a une vraie défiance des gens par rapport au syndicat à cause de cet entre-deux, en fait d'avoir un pied du côté du patron, du gouvernement et un autre dans le mouvement ouvrier. Et on ne sait jamais de quel côté la balance penche le plus. Et donc finalement, ce qu'on retrouvait dans ces trajectoires, c'est une critique en acte aussi des transformations du paysage syndical, de cette manière de se plier de plus en plus à la routine du dialogue social, au fait de siéger dans des instances dans lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, qui sont uniquement faites pour pouvoir administrer la négociation sans possibilité de faire autre chose qu'aménager les formes et sans possibilité de discuter du fond et de faire remonter des vraies problématiques que les gens rencontrent sur le terrain.
Alors, les Gilets jaunes, dans des assemblées, il y a des syndicalistes qui découvraient que leurs copains étaient Gilets jaunes. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Vous l'avez bien écrit dans votre livre. En quoi, jusqu'à présent, parce que d'où le dernier chapitre sur les Gilets jaunes, en quoi ce mouvement des Gilets jaunes a marqué durablement et va marquer durablement Sud, mais tout le syndicalisme en fait. Parce que ça vous l'avez bien expliqué et je voudrais qu'on, sans tout dévoiler de votre livre, parce qu'il faut donner envie aux gens de lire votre livre, ne serait-ce que pour la méthodologie, pour les exemples et pour tout, et pour l'histoire des Suds, parce qu'on n'a pas le temps de tout aborder, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faut donner envie aux gens de lire le livre.
Alors, il faut savoir qu'au sein de Solidaires, il y a eu des différentes façons de voir les Gilets jaunes. Il y a eu pas mal de débats, notamment dans des réunions internes de l'organisation. Certains des militants dans des organisations, par exemple comme Solidaires Finances Publiques, étaient plutôt hostiles au mouvement des Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes, les premiers jours du mouvement des Gilets jaunes, il y a des centres d'impôts qui sont incendiés. Donc,
le SNUI, ça a été difficile.
Oui, le SNUI qui est devenu Solidaires Finances Publiques. Voilà, il y a les réticences avec, aussi, ça peut se comprendre par rapport à des positions d'agents de la fonction publique, par rapport à ce mouvement. Il y a aussi des militants très politisés qui étaient assez éloignés, hostiles. Ça, une de nos enquêtées nous le raconte bien en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On voit bien que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi il y a certains ronds-points qui sont marqués très à droite.
Voilà. À l'extrême droite.
À l'extrême droite. On soupçonne qu'il y ait des tentatives de récupération côté RN. Des propos xénophobes, carrément racistes. Donc, il y a aussi un peu voilà, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est un peu comme le mouvement qui s'était déroulé en Bretagne contre la taxation
des bonnets
rouges imposés notamment aux camionneurs. Et donc, voilà, il y a plein de débats au début. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi certains militants et militantes vont quand même faire le choix d'aller voir. De se dire, OK, moi j'ai des réticences, mais je vais aller à la rencontre des Gilets jaunes, je vais aller sur tel rond-point. Et une fois qu'ils vont être en contact avec les Gilets jaunes, souvent ils vont se laisser embarquer parce qu'ils vont y retrouver une façon aussi de redonner du sens à leur militantisme. Et c'est ça qui nous intéressait. Et c'est en ça que, tu as raison, ça vient complètement percuter le mouvement syndical. Il me semble que dans ce qui a pu se jouer, c'est aussi la liberté que se sont donnés les Gilets jaunes pour décider de leur action. On va aller manifester dans le centre-ville sans demander l'autorisation de la préfecture. Et puis, on va aller dans des lieux où les syndicats ne s'autorisent plus à aller. On ne va pas accepter le
fameux tracé.
Le tracé, négocié. Il faut se souvenir que quelques années auparavant, il y avait eu la mobilisation contre la loi travail en 2016, et où le gouvernement, à un moment donné, avait imposé pour la manifestation parisienne de tourner autour de l'arsenal du bassin de la Bastille. On va aller manifester, on va prendre les centres-villes et on va aller. Voilà, c'est les Champs-Élysées à Paris, mais c'est aussi tous les centres-villes dans plein de lieux en France. Et ça, cette radicalité, cette liberté dans l'action collective, ça va, quelque part, ça va venir percuter des syndicalistes en disant, mais est-ce qu'on n'accepte pas trop de choses? Est-ce qu'on n'est pas trop dans des façons ritualisées, codifiées, d'exprimer notre contestation? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller un petit peu plus frontalement dans l'opposition au pouvoir?
Être un peu plus anarcho-syndicaliste, peut-être.
Oui, c'est ça qui se joue aussi. C'est-à-dire des militants et militantes qui ont l'impression de renouer avec les fondements, les racines du mouvement syndical et des fondements anarcho-syndicalistes. Tout à fait, en fait.
C'est ce qu'on écrivait dans le bouquin, justement, sur le fait que, par rapport à ce qu'on disait, même dans la perception au départ dans la presse du mouvement comme étant à côté du mouvement ouvrier ou à côté du paysage syndical habituel, en fait, ça renouvelait des choses très classiques, en fait, de l'anarcho-syndicalisme, notamment le refus de la délégation de pouvoir, la démocratie directe sur les ronds-points.
L'autogestion.
Exactement, et une forme d'autogestion très poussée. Et puis sur le rapport quand même compliqué avec les organisations syndicales, le livre commence là-dessus, il ne faut quand même pas oublier que le 6 décembre 2018, l'ensemble des organisations syndicales se réunit, quasiment sur demande de l'exécutif, puisqu'il y a le gouvernement qui demande à ce qu'il y ait un appel au calme qui soit fait, et va publier, on est juste après l'acte 3 des Gilets jaunes, le 1er décembre, qui est sans doute le plus fort en termes de violence policière, avec la mort de Zineb Redouane à Marseille, et puis on a des chiffres qui sont abyssaux, 10 000 tirs de bombes lacrymogènes à Paris, 339 de grenades assourdissantes, 676 de flashballs et 140 000 litres d'eau envoyés contre les manifestants à Paris en une seule journée, avec de très nombreux manifestants qui vont perdre un œil, un membre, etc.
Il y a 110 manifestants qui sont blessés
lors de cette manifestation et 23 chez les forces de l'ordre. Ouais.
Voilà.
Et là, les organisations syndicales se réunissent et donc tout le monde va signer, à l'exception de Solidaires, un communiqué qui demande l'ouverture de négociations, alors que jusqu'à preuve du contraire, les organisations syndicales ne sont pas dans la bataille à ce moment-là où les militants à titre uniquement individuel, et de dénoncer la violence dans les revendications, sans un mot sur les violences policières qui sont extrêmement importante et qui commence déjà, quelques jours après, être très largement documenté. Oui. Donc c'est aussi ce divorce qui était acté à ce moment-là. Nous, on a voulu aussi le prendre dans l'autre sens en montrant que beaucoup de militants de la CGT et beaucoup de militants de Solidaires se sont impliqués dans ce mouvement, aussi avec une forme de critique en acte de leur organisation, pour dire, regardez, on peut renouveler les formes et que finalement, les Gilets jaunes sont un bon appel à l'ordre à ce que devrait être aussi une forme d'anarcho-syndicalisme plus fort. Quoi.
Tout à fait. Et pour tout ce qui est violence policière, il y a un excellent film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. Ça, c'est radical. Donc, si on veut se rappeler cette période-là, bon, voilà. Et si on veut comprendre ce qui s'est joué, parce que c'était quand même un angle mort, les Gilets jaunes, un angle mort des syndicats, c'est votre livre. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre livre qui l'explique aussi bien, d'où votre invitation. Et je vous remercie d'être venu. Vraiment, je le recommande. Et en plus, il est à raison d'agir. La maison fondée par Bourdieu. Donc, vous êtes vraiment les héritiers de M.
Après
Bourdieu.
Après 95.
Après 95, dont on a fêté les 30 ans, avec un certain nombre d'invitations à Publico, la librairie anarchiste, 145 rue Amelot, aux 3 métros, Oberkamp, Fille du Calvaire et République. Et je vous avais reçu avec un autre livre qui est celui de Madame Serre sur tout ce qui est maladie professionnelle. Alors, je vous laisse conclure si d'une phrase sur l'actualité. Parce que l'actualité sur les syndicats, elle continue. On est en 2026. Si votre livre est toujours d'actualité, je le recommande. Si vous deviez conclure pour dire un mot, une phrase, c'est toujours en lutte ?
Ah ben complètement. On a bien vu l'importance du mouvement social
pour les
de
retraites.
2023 contre la réforme des retraites, un mouvement qui a été là aussi historique du point de vue de la participation aux manifestations. Des grèves, même s'il y a des difficultés à développer des grèves reconductibles. Et on a vu comment ce mouvement a quand même réussi à peser aussi, à mettre un certain nombre d'enjeux politiques, c'est-à-dire à faire de la question des retraites un objet central par rapport au champ politique, hein, même si c'est extrêmement compliqué et qu'il n'y a pas de... de retombées politiques directes, mais on voit que ça contribue à mobiliser, que ça contribue à faire exister ces enjeux qui concernent le monde du travail directement dans le champ politique. Et donc, en lutte plus que jamais, quoi, avec, avec la question de... Je termine déjà, ça fait pas une phrase, ça fait plus long, désolé.
La question de
continuer à... Enfin, pour les syndicats, et notamment pour Solidaires, la question de réussir à gagner en force, quoi, à gagner à se développer, à s'implanter dans d'autres secteurs pour pouvoir peser davantage dans ces luttes, en fait, par rapport au rapport de force exigé pour essayer de faire reculer les gouvernements, en fait.
Et puis peut-être sur les Gilets jaunes, en un mot, le mouvement 2019-2020 contre les retraites qui avait été interrompu par la crise du Covid, il avait aussi été marqué par une très forte patte Gilets jaunes. Nous, dans les assemblées générales auxquelles on participait et qu'on voyait, on avait aussi des délègues du mouvement des Gilets jaunes dans les formes d'auto-organisation, dans les prises de décisions locales, dans les formes de démocratie directe sur les piquets, dans la centralité de la grève dans le mouvement, alors que 2023 est revenu sur un mouvement plus classique. C'était assez étonnant sur les dernières années d'avoir une intersyndicale relativement large, qui est une intersyndicale relativement large qui perdure aujourd'hui aussi avec une grande peur de l'extrême droite en 2027. Et peut-être qu'on peut aussi dire ça, alors effectivement en lutte aujourd'hui, mais par rapport à la situation actuelle, on a l'impression qu'il y a aussi une forme de sidération dans le paysage syndical aujourd'hui, en tout cas d'attente un peu par rapport aux échéances de 2027, et de pas oublier quand même l'autonomie du mouvement syndical vis-à-vis de l'agenda politique, le fait que, voilà, moi je trouve que c'est étonnant, par exemple en ce moment, qu'il y a aussi peu de revendications chez les syndicats enseignants par rapport au nombre de suppressions de postes qui ont été annoncées avec le plan d'austérité et le budget qui a été voté au mois de décembre-janvier, alors que voilà, il y a des enjeux importants, il va y avoir presque 4500 suppressions de postes dans l'éducation nationale, et en même temps on a l'impression que tout le monde est un peu dans l'attente de ce qui va jouer l'année prochaine. Donc à la fois le paysage syndical a peur, à juste titre, de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qui pourrait attaquer les libertés syndicales en premier, et en même temps de ne pas oublier que le syndicalisme c'est un outil politique en tant que tel, qui peut aussi proposer un moyen de contester cet agenda d'extrême droite qui devient très prédominant dans notre pays aujourd'hui.
Donc il faudrait y aller les têtes hautes. C'est le titre de ton livre qui est publié chez Do. Alors, je te laisse le présenter. On a quelques minutes pour cela.
Alors, c'est un roman, du coup, c'est différent de...
Mais c'est toujours dans le monde ouvrier.
Alors, c'est toujours dans le monde ouvrier et c'est raconté par un militant syndical à la première personne. Bon, pour moi, il y avait un enjeu intéressant à passer des sciences sociales à la littérature aussi pour pouvoir présenter des résultats des enquêtes autrement, quoi, de ce qu'on apprend des sciences sociales. Tout le monde ne lit pas les sciences sociales. Bon, les romans ont l'air d'être des choses un peu plus facilement communicables, en tout cas, qu'on peut plus facilement offrir à des amis, que les gens peuvent lire quand ils sont pris par une histoire. Et donc, ça raconte assez simplement l'histoire d'une bande d'ouvriers dans un atelier qui joue au loto régulièrement et qui se retrouve à gagner. Alors, je ne spoil pas le livre en racontant ça, puisqu'il gagne très vite dès le chapitre 3. Et avec toutes les questions que ça pose aussi sur le fait de, voilà, de continuer à faire des choses à plusieurs, ce que ça veut dire de gagner à plusieurs, alors qu'il n'était pas la victoire escomptée, on pensait gagner politiquement, et puis on se retrouve à gagner au loto, qui n'était pas le rêve du narrateur. Et en même temps, de voir aussi comment ça peut reconfigurer beaucoup des relations entre eux, et poser des questions sur le sens de la lutte politiquement. C'est-à-dire que le narrateur se pose beaucoup de questions, il a une quarantaine d'années, sur son engagement syndical, sur les difficultés à outrepasser tout ce qu'on vient de dire, sur la difficulté à dépasser le dialogue social, à pouvoir vraiment gagner des choses au quotidien. Et d'un coup, le fait de gagner une somme d'argent assez importante, mais pas suffisamment importante pour pas partir à la Barbade, sinon le livre ne serait pas très intéressant. Et voilà. Et devenir patron, ça c'était pas très intéressant, mais suffisamment importante pour se dire qu'est-ce qu'on doit à soi et qu'est-ce qu'on doit aux autres, quoi. Et comment la lutte se structure là-dedans, qui était aussi pour moi, peut-être que je finirai là-dessus, de dire que c'était aussi un moyen de parler des affects politiques qui sont parfois difficilement transmissibles dans l'écriture sociologique, c'est-à-dire de raconter des affects, des hésitations, des questionnements intimes, des doutes. Dans le paysage syndical, souvent, on les met de côté parce qu'il faut donner du baume au cœur et que c'est sans doute un leg du mouvement ouvrier de... côté un peu viriliste, quoi. Il faut tenir, il ne faut pas donner l'impression qu'on a des affects. Voilà. Là, le fait de pouvoir le raconter à la première personne permet aussi de donner à voir une partie d'intimité, de l'engagement et d'hésitation, de doute, de questionnement sur le sens de la lutte et ce qu'on doit à soi et aux autres, quoi.
En tout cas, c'est quand on passe de en lutte à tête haute, on a... on n'a pas l'impression de faire le grand écart. On est toujours dans ce qui est important, on est en lutte. Et ça, c'est important. Et la tête haute. Si je devais résumer cette émission, c'est mon message. Sophie, je te remercie. Martin, je te remercie.
Merci beaucoup.
Non, mais c'est moi. Vous faites l'effort de venir. Et en plus, vous êtes les héritiers d'un monsieur que j'ai découvert quand j'avais 15 ans et qui m'a marqué profondément, monsieur Bourdieu. Donc vraiment, c'est un grand honneur de vous recevoir. Merci infiniment. Merci. On va remercier Blandine, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
À l'heure où, juste avant l'aurore, l'araignée de nuit tisse encore la toile noire de son drapeau, voilà que passe l'inventaire de la galerie de la terre. La rue s'est réveillée très tôt. On a espéré le grand soir, bonsoir, à nous d'inventer le petit matin, mutin, pas chagrin du tout. Notre révolution boutonne et ceux qui viennent de Lisbonne ont des œillets aux boutonnières. Y'a les primes vertes de Prague, notre terrain d'entente est vague, des poincères, des roses trémières. On a espéré le grand soir, bonsoir, à nous d'inventer le petit matin, mutin, pas chagrin du tout.
Y a pas de soldats, pas de troupes, y a des têtes de rois qu'on coupe sans aucune méchanceté. Y a plein d'intifadas faciles, des cailloux contre des fossiles, des lois par-dessus le marché. On a espéré le grand soir, bonsoir, à nous d'inventer le petit matin, mutin, pas chagrin du tout. Les souvenirs de vieux stratèges viennent hanter notre cortège. Y'a Proudhon, Jaurès et Babeuf, et c'est avec ces références que l'on fera de préférence 1780 tout neuf. Nous sommes humains de toutes sortes, on casse des murs et des portes. Y'a pas de mots d'ordre, les cris, les slogans, c'est des pièces uniques. Ça n'empêche qu'on revendique tout ce que l'autre aura aussi. On a espéré le grand soir, bonsoir, à nous d'inventer le petit matin, mutin, pas chagrin du tout. Sous les pavés c'est formidable, il y a de nouveau du sable dont on ne fait pas les châteaux. Comme tout se démocratise, on chante le temps des merises qui suffirait sur nos gâteaux. On a espéré le grand soir, bonsoir, à nous d'inventer le petit matin, mutin, pas chagrin du tout. On a espéré le grand soir, bonsoir, à nous d'inventer le petit matin, mutin, pas chagrin du tout. Dans la rue, ça y est, c'est grand jour. Bonjour.